Bernard Cassène, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, ancien directeur général du Monde diplomatique, président d'honneur d'Attaque France, et vous serez à Arras mercredi 8 avril à 19h30 à l'UFM rue du Temple pour vous exprimer et participer à une conférence débat sur le sujet l'Union européenne, l'enjeu démocratique.
Oui.
Alors c'est important de reposer cette question juste avant les prochaines élections européennes et après les rejets du traité constitutionnel européen par la France et les Pays-Bas, cette question de l'enjeu démocratique.
C'est évident que l'enjeu démocratique est sans doute le plus important dans l'Union européenne, parce que la démocratie c'est pas seulement une fin, c'en est une bien sûr, mais c'est aussi un moyen de prendre la décision. Or, la prise de décision dans l'Union européenne est parfaitement antidémocratique. Alors, vous avez évoqué le problème du traité constitutionnel européen qui avait été rejeté par la France et les Pays-Bas en 2005. Et donc, expulsé par la porte, le traité est revenu par la fenêtre, par la lucarne parlementaire. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a fait voter par les députés et les sénateurs un texte qui avait été rejeté par les Français. Est-ce que les élus de la nation peuvent valablement, sans commettre une véritable forfaiture, revenir sur le verdict populaire? Alors on nous dira oui, mais c'était pas le même texte. Si, entre le traité constitutionnel européen et le traité de Lisbonne, il y a 1% de différence. Et encore, je suis généreux. Donc c'était le même texte. Donc la véritable question que devraient se poser tous les gouvernants, qu'ils soient au niveau national ou européen, c'est pourquoi. Pourquoi les peuples n'adhèrent pas à l'Union européenne? Je crois qu'il faut dire, la majorité adhère évidemment à l'idée d'Europe. C'est évident qu'il faut construire des collaborations, des coopérations, des délégations de souveraineté, parce qu'il y a un ensemble de problèmes qui ne peuvent pas être traités valablement dans un cadre national. Mais passer par-dessus la tête des peuples, c'est discréditer l'idée d'Europe, parce que ce que les citoyens n'aiment pas, ce sont les politiques européennes. Les politiques européennes, c'est-à-dire les politiques françaises, allemandes, etc. Puisque, comme vous le savez sans doute, entre deux tiers et trois quarts des textes qui nous régissent, ce sont des textes non pas d'origine nationale, mais d'origine européenne. Ce sont des directives prises au niveau européen qui sont ensuite transposées dans le droit national. Donc, les politiques sont partout les mêmes à quelques détails près pour la bonne et simple raison qu'elles ont été décidées ensemble. Donc il y a un vrai, véritable problème entre, d'une part, les institutions européennes et, d'autre part, les peuples. Et on va en avoir peut-être une nouvelle manifestation aux élections européennes du 7 juin prochain, puisque, comme vous le savez, la participation aux élections européennes ne fait que baisser depuis que ce Parlement est élu au suffrage universel, c'est-à-dire depuis 1979. Alors, il y a une méconnaissance des mécanismes, c'est fort possible, mais il y a aussi un rejet. Et de cela, les gouvernements ne tiennent strictement aucun compte. Ils considèrent que si les gens ne votent pas ou votent mal, c'est qu'ils n'ont pas compris. Il faut leur expliquer. Donc, il faut faire de la pédagogie. Alors, c'est pas de la pédagogie qu'il faut faire, c'est du changement radical.
Alors, quelles sont les pistes de réflexion, notamment d'attaque, pour aller justement vers plus de démocratie? Bon, par exemple, une des propositions qui est souvent avancée, c'est faire voter tous les Européens le même jour pour provoquer comme ça un débat à l'échelle européenne, par exemple.
Oui, alors au sein d'Attaque, il n'y a pas qu'une position. C'est une association très, très pluraliste. Il y a différentes positions qui s'expriment, mais celle-là en est une. Mais ça ne changera pas grand-chose. Si l'idée est de provoquer une prise de conscience européenne, ce qui est souhaitable, c'est pas uniquement par un vote qu'on le fera, c'est par des politiques qui recueillent l'adhésion des peuples. Or, les politiques de l'Union européenne, ce sont exactement les politiques qui ont mené au désastre financier et économique actuel. C'est-à-dire, ce sont les principes du néolibéralisme. Si vous lisez les traités ou les préambules des traités, eh bien, vous verrez que les principes qui sont annoncés, qui sont proclamés, ce sont les principes de la mondialisation libérale. L'Europe, l'Union européenne, jouant simplement le rôle de relais continental de ces politiques. En particulier dans le traité constitutionnel européen, le préambule de la deuxième partie, qui était une partie consacrée aux, je mets des guillemets, droits fondamentaux, quand vous parlez de droits sociaux fondamentaux, vous attendez à voir droit de grève, égalité homme-femme, etc., etc. Si vous lisez le préambule, il est indiqué que tous ces droits se situent dans le cadre de des quatre libertés fondamentales de l'Union européenne. Alors, quelles sont ces fameuses libertés fondamentales? Ce sont la liberté de circulation des capitaux, la liberté de circulation des biens, des services et des personnes. Alors, des personnes, évidemment, c'est évident que c'est une des libertés fondamentales, mais la liberté de circulation des capitaux, c'est celle-là même qui a permis la contamination de l'ensemble du système financier international par les actifs toxiques. Le libre-échangisme, proclamé comme deuxième et troisième liberté, c'est aussi un moyen permanent de pression sur les salariés des entreprises par des chantages de la délocalisation. Donc les grands principes de l'Union européenne, eh bien, ils viennent d'être condamnés par la crise actuelle. Donc il faut revenir sur les traités. Ces traités sont malfaisants, sont nuisibles. Et en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est tout remettre à plat et refaire l'Europe sur d'autres bases que celle de la concurrence, qui est quand même la valeur suprême de l'Union européenne.
Est-ce que c'est pas encore plus difficile maintenant que l'Europe a intégré de nouveaux pays? Est-ce que ça n'a pas accentué cette difficulté à aller vers plus de démocratie au sein de l'Union européenne?
Certainement, l'élargissement à 25 puis à 27, puisque maintenant nous sommes 27 avec la Bulgarie et la Roumanie, rend d'autant plus difficile la prise de décision. Et le dénominateur commun, c'est toujours le plus bas. C'est le moins-disant social, le moins-disant fiscal, le moins-disant écologique. Donc la configuration actuelle ne permet pas d'aller bien au-delà. D'autant plus que quand un des 27 se distingue des autres, comme l'Irlande l'a fait en rejetant le traité de Lisbonne, eh bien on lui dit, écoutez, vous avez voté non, mais ça compte pas, vous allez recommencer à voter jusqu'à ce que vous disiez oui. Donc on se contrefiche éperdument de la vie des peuples. Une Europe qui n'est pas basée sur la souveraineté des peuples et sur le sentiment des différents peuples de maîtriser leur propre destin, quitte à ce que ce destin soit partagé dans certains domaines avec les autres, c'est une Europe qui ne peut pas marcher.
Sur justement cette série de débats qui est organisée par ATTAC avant en fait les élections européennes, quelle est la démarche commune à ATTAC en cette année d'échéance européenne?
Disons que là c'est le comité local d'Arras qui m'invite, mais je suis invité par d'autres comités à Paris, à Provence, à Elbeuf, à Gap, à Châtellerault, j'en oublie sans doute. Chaque comité a ses centres d'intérêt et voit les questions sous un certain angle. Et moi, comme d'ailleurs les autres personnes d'ATTAC qui participent, s'adapte à la demande. Parce qu'en général, ça se passe comme ça. Je fais un exposé de trois quarts d'heure, puis après, il y a un débat qui s'ouvre, et un débat qui est toujours très animé parce que beaucoup de membres d'ATTAC sont assez bien informés sur les questions. Sans doute y aura-t-il une discussion sur les élections européennes, sur l'enjeu qu'elle reprend, sur ce que c'est le Parlement. Et je viens d'ailleurs de sortir un ouvrage sur le Parlement qui s'appelle « Élections européennes, mode d'emploi » qui vient de sortir aux éditions du Croquant. J'emporterai quelques exemplaires pour ceux qui voudront bien l'acquérir. Expliquer déjà comment ça marche le Parlement européen, c'est une vraie difficulté.
Et alors comment vous voyez un peu l'évolution justement du rôle joué par le Parlement européen?
Parlement européen a historiquement été, pour moi, bien qu'il soit élu suffrage universel, c'est un véritable étouffoir de la démocratie. C'est-à-dire que la conflictualité politique qui est la base même de la démocratie n'existe pas au Parlement européen, où il y a une alliance de fait et même de droit entre le Parti socialiste européen, c'est-à-dire tous les élus des sociaux-démocrates des pays membres, et le PPE, le Parti Populaire Européen, qui rassemble les droites. À eux deux, ils se partagent les postes, ils se répartissent la présidence, et tous les grands textes sont votés par consensus entre eux. Des gens qui sont dans des camps opposés au niveau national se retrouvent dans le même camp au niveau européen. Comment est-ce que vous voulez que les citoyens s'y retrouvent? Donc, pour l'instant, le Parlement européen n'est pas une assemblée réellement politique. Alors, on dira il n'a pas tous les pouvoirs d'un Parlement, c'est tout à fait exact. Mais moi, j'ai tendance à dire qu'avant de revendiquer de nouveaux pouvoirs, il faut d'abord qu'il les mérite, qu'il se comporte comme une assemblée politique et pas de manière unilatérale comme il l'a fait. Par exemple, je donne un exemple. je crois que c'était au mois de février de l'an dernier, le Parlement européen a refusé une résolution qui appelait le dit Parlement à respecter le vote des Irlandais, un vote qui n'interviendrait que quelques mois plus tard. Et bien, ils ont voté contre. Le Parlement européen se considère d'une essence supérieure à la démocratie de chacun des pays membres. Ceci n'est absolument pas acceptable.
Dans les arguments des gens qui voulaient dire oui, en tout cas un oui de gauche au TCE, c'était justement que le Parlement serait renforcé dans ses pouvoirs et qu'il y aurait une démocratie accrue.
Personnellement, je ne suis pas tellement chaud pour qu'il soit renforcé dans ses pouvoirs parce qu'il les utilise mal. Tant qu'il y a une alliance entre... C'est comme si vous aviez le PS et l'EMP qui font alliance. C'est ce qui se passe au niveau européen. Donc c'est une caricature de la démocratie.